Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Don Paul Préau.
Bonjour madame.
C'est un quatrième rendez-vous cette semaine dans cette série des clés pour vivre. Je vous reçois avec cet ouvrage paru aux éditions Arthège il y a quelques mois, consacré au fond, et c'est une réflexion que vous menez sur le sacerdoce et puis les prêtres. Et vous rappelez à travers le titre de l'ouvrage, les prêtres, don du Christ pour l'humanité. Alors ce titre en lui-même, prêtres, don du Christ, des prêtres... On en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois. On parle de cette figure du prêtre, mais défigurée, dirons-nous. Défigurée par parfois des gouvernances qui ont été déviées, des manipulations, des abus de pouvoir. Alors comment, Don Paul Préau, amener un petit peu ce sujet qui est un sujet douloureux? Pensons aussi à certains de nos auditeurs qui ont peut-être des blessures liées au sacerdoce. Donc prudence dans la parole, mais n'ayons pas peur aussi d'évoquer et de revenir quelque peu dans cette série des clés pour vivre sur ces dérapages graves. Un grave, car on touche à l'humain et ce sont des blessures à vie parfois.
C'est un sujet de fait sérieux, c'est un sujet qui fait souffrir aussi. Hein. Je pense qu'il serait intéressant de distinguer dans notre vocabulaire le pouvoir de l'autorité. Si on est dans le registre du pouvoir, on va être dans un registre concurrentiel. Et donc forcément, qui a du pouvoir, enfin, qui est dominé, qui est dominant. Si on est dans le domaine de l'autorité, l'exousia en grec, on est dans un thème biblique. Le thème biblique m'intéresse parce que de Jésus lui-même, on disait, on était frappé par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Les grands prêtres et les anciens l'interrogent d'ailleurs. Hein. Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? Parce qu'ils voyaient les grands prêtres les guérisons. Ils voyaient le peuple et en particulier les plus pauvres. Les estropiés, les aveugles, les possédés, venir à Jésus. Mais par quelle autorité fais-tu cela? Donc ça les interroge de voir Jésus, certainement qui devait être quelqu'un de très libre, mais en même temps de très doux, de très bon, faire tout ça. Mais qui t'a donné? Je crois que cette autorité pour Jésus découle de son identité. Il est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Jésus affirme... Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, ainsi comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Ça c'est dans Saint Jean au chapitre 17. Vous voyez, l'autorité de Jésus n'est pas un pouvoir hein, qui manipule ou qui aliène la liberté de celui qui veut le suivre. C'est très important cette distinction. Jésus a une autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est permettre à l'autre d'être pleinement lui-même selon Dieu. Le pouvoir, c'est quoi? C'est écraser l'autre pour pouvoir que moi j'existe. Jésus, il est dans une autorité. Jésus parle et il fait exister parce qu'il est le Verbe incarné. Il dit et cela fut, comme dans la création. Jésus, quand il parle, il fait exister et il nous dit même, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit surabondante. Cette autorité, ce qu'on va appeler cette autorité sacrée, en latin on appelle ça la potestas sacra. Donc là on remet le mot pouvoir, mais il faut bien l'entendre au sens de pouvoir. Il faut le remettre en italique ou avec des guillemets. C'est une autorité, a été transmise par le Christ ressuscité à ses apôtres, pour sanctifier et édifier son corps. Jésus va s'approcher d'eux, les douze. Hein. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père. On voit qu'il donne une autorité à ses apôtres. Et cette autorité, elle est dans le domaine doctrinal, dans le domaine de la vérité, dans le domaine bien sûr sacramentel, quand on donne la vie du Christ dans les sacrements. Par exemple, quand le prêtre dit « Et moi, je te pardonne », vous vous rendez compte? Seul Dieu peut pardonner. Le prêtre, c'est rien. Le prêtre, c'est un pécheur déjà lui-même. Alors, mais en plus, mais il a reçu, par l'onction de l'Esprit-Saint, dans ses mains, il a reçu l'onction pour pardonner les péchés. Et puis aussi, dans le gouvernement. Mais pas n'importe quel gouvernement. Jésus d'ailleurs dit souvent, hein, regardez comment les hommes gouvernent avec autorité, ils cherchent le pouvoir. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Moi, j'ai été parmi vous celui qui sert. Donc le gouvernement est un service. Le gouvernement, il se fait à genoux.
Donc là, c'est le rappel aussi très symbolique du jeudi saint où le Christ lui-même va laver les pieds à ses disciples.
Et il dit à Pierre, si je te lave pas...
Le prêtre se fait ce serviteur.
Exactement. Hein. Et Pierre qui reçoit un bif, qui ne veut
Pierre,
pas.
Hein.
Encore Pierre.
Cette belle figure de Pierre.
Et Jésus lui dit, je ne te lave pas, tu n'auras pas de part. Or, le mot part est important parce que c'est d'une participation. Pierre, l'autre qui va être le premier des apôtres, hein, qui va avoir l'autorité sur les apôtres, confirme ta foi dans les frères, confirme tes frères dans la foi. Montre bien que l'autorité est une autorité transmise, qui illumine, qui sanctifie et aussi qui gouverne l'Église. Donc l'autorité apostolique des apôtres et de ceux qui sont les successeurs des apôtres, les évêques, et de ceux qui participent à cette autorité que sont les prêtres, n'est pas une autorité qui se substitue, qui remplace celle du Christ, mais elle la rend présente. C'est ça la grande différence. C'est qu'on est dans l'ordre sacramentel. On n'est pas dans l'ordre psychologique. On est dans l'ordre sacramentel. Donc l'autorité du pape actuel, l'autorité des évêques sur nous, l'autorité d'un prêtre quand il enseigne, c'est l'autorité, il rend présent l'autorité du Christ. Ça, c'est un grand, grand mystère. Hein. Moi, je dis souvent à Jésus, mais si tu avais fait le travail à notre place, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Et Jésus nous dit, oui, mais j'ai voulu avoir besoin de vous.
Alors, puisqu'on parle du Christ, on parle aussi de ses prêtres avec vous, hein, dont Paul Préaux. Permettez-moi un peu presque de réagir dans cette série. Alors, parmi tous les prêtres qui ont été appelés, qui sont peut-être et qui vont être appelés dans les années à venir, comment comprendre dans cette gouvernance que vous évoquez, cette autorité du Christ? On a parlé aussi de discernement, de formation, dont Paul Préaux. Parmi tous ces prêtres sans porter aucun jugement sur les actes qui ont pu être commis par ces frères prêtres. Comment expliquer qu'ils aient été un jour appelés par Dieu et ces prêtres qui ont fauté et parfois gravement, et là j'ai une pensée bien sûr pour toutes celles qui ont été victimes directement de frères prêtres et qui nous écoutent en ce moment.
Comment comprendre cet
appel de Dieu sur tous ces frères prêtres qui ont gravement fauté?
Oui. Ça peut vous paraître étonnant,
ma réponse. Et qui ont
amené
le scandale dans l'Église et le monde.
Mais vous savez, au tout début de l'Église, les apôtres, ils ont été choisis par Jésus. Dans Marc, il est dit au chapitre 3 qu'il a choisi qui il voulait. Donc il a vraiment choisi, c'est pas un choix, il n'a pas été conditionné, Jésus, dans sa liberté. Il a choisi qui il voulait. Quand il a choisi les 12, parmi les 12, vous n'avez pas 12 hommes parfaits. Vous avez des hommes, mais avec toute leur épaisseur humaine. Mais ça n'empêche pas le choix, ça. Donc, le fait que Pierre ait trahi, gravement, hein, parce qu'il n'était pas au pied de la croix, Pierre. Le fait que tous les autres apôtres, à part Jean, aient trahi, parce qu'eux aussi, ils n'étaient pas présents. Ils ont abandonné le maître au moment crucial de sa vie. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont été choisis. Ils ont même été consacrés. Ils ont entendu Jésus dire « Faites cela en mémoire de moi ». Donc ils ont reçu un mandat de Jésus « Faites cela en mémoire de moi ». Et après la résurrection, quand Jésus va revenir voir Pierre, il lui dit pas « Tu vois, je t'avais dit, tu fanfaronnais là avant. Je t'avais dit que t'allais me trahir. » Il lui a dit « M'aimes-tu ? » Ça veut dire que celui qui est appelé est sans cesse appelé à aimer et à ne pas trahir. Et s'il a trahi, à demander pardon pour retrouver le mystère de cette alliance et aussi le mystère de ce mandat. Donc nous sommes tous des pauvres pécheurs, mais nous sommes tous appelés, avant de donner la miséricorde aux autres, parce que le prêtre est un homme de miséricorde, il est appelé à la recevoir, cette miséricorde. Et un prêtre qui ne se confesse plus, qui ne reçoit plus la miséricorde, c'est un prêtre qui est en danger pour moi. Vous voyez ?
Quels sont les plus grands dangers pour un prêtre ?
L'orgueil. C'est-à-dire, en fait, j'appelle ça un détournement de fonds. Vous savez, un peu comme dans le monde de la finance. C'est-à-dire que le prêtre, il récupérerait le don de Dieu pour pour faire que cette autorité soit un lieu d'intimidation pour que ces victimes plient davantage. Mais ça, c'est un grand détournement, c'est très grave, ça. C'est pour ça que je pense que derrière les abus sexuels, il y a d'abord un abus de pouvoir. Au début, dans le discernement, mais même dans l'accompagnement. Un prêtre, tout au long de sa vie, doit être accompagné, même s'il est déjà prêtre et tout. C'est pour ça qu'on fait des retraites. En ce moment, on fait une retraite, avec une centaine de prêtres à Lourdes. Oui. Pourquoi on fait la retraite ? Pour nous convertir. Pour nous convertir. Parce que nous avons dans les mains un trésor. Nous portons un trésor, qui est le Christ, mais nous le portons dans des vases d'argile. Nous sommes des petits bonhommes, des petits riens. Un prêtre doit être un homme de l'Eucharistie.
Et le gardien de l'Eucharistie.
Et le gardien de l'Eucharistie.
Si l'homme prêtre ne sait plus être ce gardien de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il a oublié ? Il est passé à côté de quoi ?
De sa vie. Il passe à côté de sa vie. Et souvent, vous savez, ces prêtres-là sont des frères malheureux. Pour en avoir rencontré, ce sont des frères malheureux. Parce qu'ils savent qu'ils sont passés à côté de leur vie. Et il ne faut pas qu'ils aient peur de croire au pardon. Il y a toujours un pardon possible. C'est difficile, hein, parce que peut-être que parmi nous, il y a des victimes qui écoutent ce que je vous dis. Mais souvent, on défend les victimes, et je suis tout à fait d'accord. Hein, il faut vraiment, et je crois que l'Église en France, en tous les cas, a fait un beau travail sur cela. Mais il ne faut pas oublier aussi les prêtres qui ont commis cela, parce que le Christ a donné sa vie pour tous, y compris pour ces pauvres prêtres qui ont trahi, qui ont détourné un bien pour en faire une épée contre les autres. C'est ça qui est terrible. Mais c'est ça aussi qui me rappelle, moi qui vous parle, que je peux toujours trahir. Vous savez, c'est Saint Philippe Neri, le grand Saint Philippe Neri, à Rome, qui disait tous les jours, « Seigneur, méfie-toi de Philippe, qui aujourd'hui peut te trahir. » Si le prêtre il a conscience qu'il peut trahir, il restera dans l'humilité et donc dans la disponibilité à l'Esprit-Saint, je pense.
Et dans la joie de sa mission et de son sacerdoce.
Et la joie de sa mission et de son sacerdoce.